Donc, il m'arrive bien de lancer le débat. On fait un choix toujours pour animer un débat. On pourrait discuter sur plusieurs choses. Sans doute, ça va venir dans la discussion. Moi, j'ai trouvé particulièrement précieux ton exemple, puisque on parle rarement du lapsus de l'analyste. C'est particulièrement bienvenu, je trouve, parce que on dit souvent sur quand il y a des ratages, des lapsus, ou même quand on parle du contre-transfert de l'analyste, on dit on se sert de la thèse, on s'occupe pas de ça, l'analyste il se débrouille lui-même ou dans son analyse. Il me semble, ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est premièrement, c'est ça a des effets. Ça a des effets bénéfiques. Comme quoi, il y a des choses parfois qui dépassent l'acte de l'analyste. Ils peuvent avoir des effets positifs. Et aussi, c'est là-dessus que je voulais t'interroger. J'avais deux questions. La première, c'est, tu évoques des affects par la situation, par ce qui te dépasse. Je ne pense pas que tu puisses le considérer comme étant des affects énigmatiques des fins. Ce sont des affects que tu analyses dans ton analyse. Donc, je voulais, si tu peux en dire quelque chose de plus là-dessus. La deuxième question, là, c'est pas central, puisque c'est pas le centre de ton exposé, mais peut-être ça vaut la peine de revenir. Qu'est-ce qui t'a fait penser que, concernant les affects énigmatiques, la référence, c'est la structure névrotique? Alors, en effet, tu évoques l'énigme et tu évoques la certitude du côté de la psychose, mais... Bon, il y a des sujets psychotiques qui ne sont pas complètement dans la certitude. C'est un temps qui peut venir après ou pas. Et les temps d'avant la certitude, ça peut être un temps énigmatique ou avec même des affects énigmatiques. Mais bon, c'est pas central. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. À Patricia, je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu dis. Je suis aussi d'accord, c'est Lacan d'ailleurs qui le dit, qu'il y a une réponse, il y a une réponse à l'énigme, mais est-ce qu'il y a une dimension d'énigme sans réponse? Voilà ma question, après une analyse. Est-ce que forcément il y a des réponses à tous les énigmes, ou est-ce qu'il y a des énigmes sans réponse? Est-ce qu'il n'y a pas des énigmes qui peuvent... paraître après une analyse, des énigmes pas... Tu l'évoquais, mais à mon goût, un peu trop rapidement. C'est pour ça que je voulais que tu en parles. Tu as centré le développement sur l'énigme, sur l'écart entre énonciation et énoncé. Oui. Tu as moins évoqué la dimension d'affect énigmatique et moins évoqué, quoique tu l'as dit au passage, juste une phrase, la question de l'énigme de la jouissance de l'autre. Ce n'est pas une dimension forcément liée à la définition que tu as pris comme cet écart entre l'énonciation et l'énoncé. Donc voilà.
Alors... la question sur le lapsus, pas simple, parce que c'était pas le premier lapsus que je faisais, j'en fais souvent, enfin, c'est comme ça, hein, c'est ma nature, j'en fais. C'était pas du tout, en effet, je le prends comme un... Ce qui m'a intéressé, c'est le double effet, c'est-à-dire l'effet déchiffrage pour cet enfant, ça lui a mis à travailler, à poser des questions et à associer, et puis... pour moi, c'était la première fois que, je ne vais pas le développer plus ici, mais l'effet qui n'était pas l'effet que j'avais d'habitude quand je faisais les lapsus. Pour la première fois, voilà, c'était pas la honte, quoi. C'était pas, bon. Donc, ça a fait énigme, mais c'est pas du tout, je ne le prends pas du tout comme un affect énigmatique de fin de cure. C'était un voilà, quelque chose comme, qui a surgi comme ça et qui a fait que ça, pour moi, était un moment important. Voilà. Mais ça a fait point d'arrêt, je dirais plutôt comme ça. Mais énigme et pas, pas énigme de fin.
Ça fait point d'arrêt à quoi ?
Point d'arrêt dans la l'analyse, enfin, je veux dire, voilà. Ça, mais voilà, mais bon, je n'ai pas envie de plus le développer. Quant à la question de... C'était une question, parce que je trouve que dans ce séminaire, par rapport à la structure névrose-psychose, il parle peu de la référence à la psychose, donc c'était à la limite beaucoup plus une question que je lançais, je n'ai pas la réponse du tout, hein. Je vais botter en touche, mais ça va me faire travailler. J'avais l'impression que c'était ma question de savoir si ce côté énigmatique était plus du côté de la névrose que du côté de la psychose, qu'on était plus du côté de la certitude dans dans le délire, dans l'hallucination. Mais bon, c'est une question, ça reste une question. Voilà, pas bon. Peut-être quelqu'un a la réponse.
Patricia.
Oui. Bon, je ne sais pas si je vais bien pouvoir ordonner mes idées là-dessus, mais je commence par donc ta question sur l'énigme sans réponse. Sans doute qu'il y a des énigmes sans réponse qui restent. Moi, ce que je pense, c'est que dans l'analyse, il y a... enfin, donc... Là, on en vient à la notion de savoir, c'est-à-dire qu'on touche à un savoir. C'est-à-dire, il garde, c'est Lacan, hein, ça qui m'a quand même frappé, c'est qu'il utilise toujours cette formule d'énoncer-énonciation pour définir l'énigme. Hein. Il dit l'énigme, mais le définit comme ça, il revient sur ça. Mais ce qu'il avait amené au début sur les formations de l'inconscient, là, c'est pas ça. Il parle vraiment du savoir. Donc là, il y a vraiment la dimension de jouissance qui entre en jeu, donc le rapport à la jouissance de l'autre, il fait partie de ça, enfin, de ce qui se produit au moment où, alors, l'analysant produit un énoncé qui est un peu inédit, c'est-à-dire qu'il émet lui-même quelque chose qui le surprend et qui produit des effets, c'est-à-dire que sa parole a un effet d'association, enfin l'amène à d'autres associations, des associations nouvelles, etc. Donc, voilà, enfin, c'est sans doute il y a des énigmes sans réponse, c'est pas, mais il y a un point sur lequel on touche à un savoir. Et c'est autour de ça que j'ai voulu insister par rapport à ce qui peut faire basculer une analyse, ce qui peut permettre d'amorcer un virage, enfin c'est pas la fin de l'analyse, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire émerger un énoncé pour l'analysant, mais un énoncé qui a des effets, on ne sait pas, il y en a eu d'autres, il s'est passé d'autres choses dans l'analyse, il y a eu des rêves plus ou moins analysés, déchiffrés, etc. Mais il y a un moment où il y a quelque chose qui en dit plus, qui bouscule un peu les choses. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, la dimension d'affect, enfin, tout ça est un peu lié. Hein, c'est énigmatique parce que, justement, il y a des affects énigmatiques. C'est ça qui fait énigme.
Bon. Sans doute, on va revenir. Martine, tu veux tout de suite. Vas-y. Mais tu peux, vas-y. C'est très bien.
C'est des questions de détails. Vous entendez ?
Peut-être qu'il marche, hein, regarde si tu veux.
Il marche. Oui, c'est des questions de détails, en fait. Sur tes chinois, il y a une idée. Tu dis le ta, c'est déterminé simplement par l'écriture. Et c'est pas quand même la différence, elle est peut-être pas aussi énorme que.
Non, c'est pas ça, je vais te l'écrire simplement la différence.
Attends, je te termine. Bon, est-ce que c'est pas déterminé aussi par le contexte signifiant, c'est-à-dire pas un signifiant neutre par rapport à ce qui vient avant et après. donc, oui. dans le discours.
Mais c'est pour ça que je l'ai employé en tant que déchiffrage. Hein. C'est plutôt du côté de l'inconscient déchiffrage, le ta premier. C'est-à-dire que quand tu... Bon, on peut l'écrire.
Non, c'est pas que par l'écriture.
Non. Ta, par exemple.
Oui, donc.
Ça c'est il, ça c'est elle. Bon, je pense que ce qui a intéressé Lacan, c'est que ça c'est la clé de l'homme, ça c'est la clé de la femme. Donc si vous dites ta che jongogen, je suis chinois, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme dont on parle. Quand tu l'écris, tout de suite il y a la clé de la femme et il y a quelque chose qui apparaît, un peu plus. Mais je veux dire, ce qui m'avait travaillé l'année dernière, j'avais laissé tomber de côté la référence à la poésie. Et la poésie est beaucoup plus du côté de la langue, parce que avec la poésie, on la chante plus ou moins. C'est-à-dire qu'en plus, l'opéra chinois, par exemple, est très typique. On ne comprend. Enfin, ça m'a fait penser. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je ne connaissais pas. La semaine dernière, il y avait Zoé Valdés, qui est une poétesse, une écrivaine cubaine, qui parlait. C'était sur France Inter, France Culture, et elle racontait que quand elle était petite, sa grand-mère lui chantait des poèmes de Baudelaire. La grand-mère ne parlait pas du tout un mot de français, mais elle trouvait qu'il y avait quelque chose de sensuel et de très beau dans cette langue. Donc elle lui chantait des poèmes, déclamait des poèmes de Baudelaire, et Zoé Valdés expliquait que c'était sûrement là qu'il y a eu quelque chose qui a accroché avec la langue française pour elle. Mais la grand-mère, elle ne comprenait pas du tout le... Voilà. Donc je trouve qu'il y a cette dimension dans la poésie et qui est aussi au niveau de la modulation plutôt. Voilà. Et du côté du chinois, comme c'est encore plus, c'est ça aussi qui est la tonalité, elle est là tout le temps, puisqu'il y a quatre tons, enfin, etc. Mais donc là, c'était uniquement, justement, plutôt côté inconscient des chiffrages. Mais avec quelque chose de particulier, c'est pour ça que je pense que Lacan s'est intéressé principalement au caractère chinois, au départ, c'était qu'il y a quelque chose qui surgit un peu plus. En plus... Quand on l'écrit, parce que là, « ta », j'écris « il », « elle », mais c'est encore un « ta » différent quand c'est un animal et un « ta » différent quand c'est un objet. Enfin, le « il », le « voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut le savoir qu'à l'écrit.
Alors, Patricia, c'est un peu plus compliqué. Il m'a semblé que tu parlais de plusieurs catégories, si je puis dire, de savoir. J'ai eu un peu de mal à m'y retrouver. Par exemple, quand tu dis... L'exercice du savoir est une jouissance. De quel savoir tu parles ?
Du savoir.
Alors, qu'est-ce que c'est l'exercice du savoir inconscient ?
Enfin, c'est une référence à Lacan. Hein,
oui,
mais,
non,
c'est, oui, bon, bien
c'est
sûr.
Gentil,
c'est. Enfin, bon, peut-être, oui, je ne saurais pas très bien expliquer, mais le savoir est lié à la jouissance. À mon avis. Enfin, je pense que c'est ce savoir inconscient, il est lié justement à cette jouissance du symptôme, enfin à cette jouissance de la langue. C'est comme ça. Enfin, c'est de ça qu'il est fait, ce savoir. Donc s'exerce à partir de la jouissance du sujet, finalement. Enfin, c'est un savoir sur sa jouissance, c'est un savoir pour la psychanalyse, enfin, c'est dans ce registre qu'il est. Et donc, en fait, bon, là où je l'ai amené, c'est que, bon, effectivement, c'était pour... faire ce rapport entre savoir et jouissance, et le fait que Lacan parle, à partir du moment où il introduit cette notion de jouissance, et cette notion de jouissance liée au savoir, le terme de savoir par rapport à l'énigme, alors que pendant très longtemps, il a tenté d'expliquer, en particulier le symptôme, mais on peut dire les formations de l'inconscient d'une façon générale, puisque le symptôme, il le définissait de la même façon que les autres formations de l'inconscient, il a tenté de l'expliquer par rapport aux formations de l'inconscient. Et là, il parle de savoir l'énigme. Et, je pense que le passage de l'un à l'autre, c'est pour marquer la présence de la jouissance. Et donc, bon, je pense que oui, le savoir inconscient est lié à la jouissance, à cet exercice de la jouissance.
Enfin, exercice du savoir.
Hein? Non, mais c'est-à-dire que c'est un savoir sur cette jouissance du sujet. Enfin, mais peut-être que, bon, on peut l'expliquer autrement. C'est-à-dire, pour moi, le lien, il était articulé autour de savoir et jouissance et le fait qu'il passe du symptôme au savoir. Pour parler des mots.
Marc. Ah, Colette, je n'ai pas vu.
Oui, concernant la première question là, sur l'équivoque, oui, je trouve que c'est très juste que c'est l'écriture au sens de la calligraphie qui fait apparaître l'équivoque. Mais les enfants qui ne l'écrivent pas encore, ils ont quand même un moyen d'accéder à l'équivoque par la syntaxe. Parce que la syntaxe réduit l'équivoque. La syntaxe, c'est-à-dire le contexte.
Oui.
Le contexte. Un mot qui a un double sens, si on le déplie dans la phrase, au fond, on réduit son équivocité. Et du coup, il y a quand même un accès de l'analphabet à l'équivoque.
C'était ma question, justement, parce que je l'ai pas. Mais c'était ma question de savoir si j'allais plus loin, est-ce que les analphabètes peuvent avoir accès à l'analyse, enfin je veux dire, jusqu'où on peut aller dans l'analyse avec, par exemple,
il n'y en
a pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on peut poser la question.
Les enfants,
voilà, tout à fait.
J'avais posé la question il y a très longtemps, et je réponds après, bien sûr, que l'analphabète, il a parfaitement accès à l'équivoque. Simplement, il n'a pas l'accès par l'écriture. Ça ne se révèle pas par la visualisation d'une graphie. Mais ça se révèle effectivement par les effets de ce que j'appelle de syntaxe, c'est-à-dire de contexte du signifiant, où en fait l'équivoque se réduit.
Oui, je pense que vous voulez dire. Mais c'est vrai que
donc, elle apparaît par sa réduction.
Je prenais l'exemple parce que souvent, les enfants font des jeux de mots malgré eux. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte. Eux, ils nous font rire. C'est pour ça qu'il y avait. Voilà. C'était plus
fait,
aussi
fait,
par rapport à ça.
Bon, c'est un. Voilà. Alors, sur la question de l'énigme, la définition que d'accord donne une énonciation. Qui ne connaît pas l'énoncé, Patricia, vous avez très bien montré ça, c'est la définition de l'énigme au niveau de la parole et de formation de l'inconscient. Et quand on parle du savoir énigmatique, est-ce le même sens d'énigme? Non. Si je dis, par exemple, d'abord, la notion de savoir énigmatique, énigme du savoir, ça prend son poids, je crois, par comparaison avec le savoir de la science. Qui n'est pas énigmatique.
Oui, tout à fait.
Dans la science, ce qui est énigmatique, c'est le réel. Par exemple, l'origine de l'univers est une énigme, je ne peux pas appliquer le schéma énonciation énoncé. Ça veut dire, énigme là veut dire, me semble-t-il, quelque chose qui nous questionne et dont on n'a pas la réponse. Donc c'est un petit peu, vous avez glissé.
Non, c'est-à-dire, je vous laisse terminer parce que.
Oui. Et donc, il me semble que c'est quand même pas le même sens. Et le même. Et vous avez, après votre exposé a été du côté l'énigme du sujet. Mm-hmm. L'énigme du sujet et l'énigme du savoir ne sont pas les mêmes, peut-être. Hein. L'énigme du sujet, il cherche sa réponse, il la trouve dans le sens, ou il la trouve dans les énoncés, peu importe, il cherche la réponse à son énigme. Quand Lacan dit la langue, un savoir joui qui dépasse tout ce que je peux en dire, ça veut dire que c'est une énigme qui ne se résoudra pas. Mm-hmm. Elle est programmée en quelque sorte pour ne pas se résoudre, ou ne se résoudre que très partiellement par le déchiffrage. Un petit peu d'énigme, mais. Alors, un autre mot sur les affects énigmatiques, qui concerne moins directement ce que vous avez exposé. Je ne crois pas du tout que les affects énigmatiques soient des affects de fin d'analyse. Les affects énigmatiques, d'ailleurs, Lacan les dit comme une chose générale. On s'aperçoit que les effets de la langue par ceci que l'être présente toutes sortes d'affects qui restent énigmatiques. C'est l'être, en général, avant, après, en dehors de l'analyse. Et alors, les affects de faim, j'aurais presque plus tendance personnellement à dire qu'ils sont inattendus, improgrammables, plutôt qu'énigmatiques. Parce que quand il y a une satisfaction de faim, elle ne paraît pas énigmatique à celui qui l'éprouve. Elle lui paraît, au contraire, fort bien fondée. Et donc, je formulerai plutôt comme ça. Un petit mot sur la psychose, l'énigme. C'est que dans la psychose, c'est une très belle thèse dedans, c'est l'énigme qui fait certitude. Il y a un passage tout à fait crucial d'un texte de Lacan, le vide de la signification, une formule pour l'énigme, là où il y a un trou dans la signification, ça vire en certitude. Donc il y a une jonction dans la psychose que Lacan a accentuée bien avant ses textes, bien avant la question du savoir inconscient. Alors du coup, ça devient une question effectivement, comme il disait ça, c'était le vide de la signification, c'était l'énigme dans le langage articulé, pièce 1, S2. Ça n'était pas au niveau du savoir présent, qui n'est pas une articulation S1-S2, comme vous avez dit. La question de la langue dans la psychose, un chapitre peut-être qu'on pourrait ouvrir, approfondir, je ne sais pas.
Vas-y. Ah, vous voulez répondre ?
Non.
Oui, Didier, d'abord. Alors, je ne sais pas si. En tout cas, vous m'avez fait me poser la question, peut-être en faites-vous pour vous aussi. Est-ce que pour initier un processus analytique, il faut toujours dire des choses qu'il ne faut pas dire ? Freud, en tout cas, en est un exemple. Lacan a dit des choses aussi assez inouïes. Et finalement, c'est peut-être une piste à creuser, justement, du côté de ce qui peut représenter le désir de l'analyste. Mais le commentaire que je voulais faire, c'était sur le bilinguisme dont vous avez parlé, nous sommes tous des bilingues. C'est ce que vous avez montré, au moins dans la fonction du bilinguisme, pas dans les conséquences sur le rapport à chacune des langues, puisqu'il y a des linguistes et des pédagogues. Une des langues du bilinguisme, la plupart du temps, est la langue des mots interdits, ou des mots que les enfants ne sont pas supposés comprendre, des mots cachés. Une des langues est plus préférentiellement la langue interdite de la jouissance. Et effectivement, de ce point de vue-là, nous avons tous notre usage, notre histoire des gros mots, des mots interdits, ce qui fait que nous sommes bilingues. C'est la célèbre blague, le mot d'esprit de Freud, je pense maintenant, de la comtesse qui accouche, et avec notre médecin au rez-de-chaussée, le mari et le médecin jouent aux cartes et elle s'exprime en Hochdeutsch comme elle a mal. Le mari s'inquiète, le médecin dit il n'y a pas de problème, et c'est au moment où elle dit en Yiddish qu'elle a mal, le médecin jette les cartes, il faut y aller. Et c'est le bilingue. Cette remarque sur le bilinguisme n'est pas rapport à votre question, effectivement, je suis. Lacan utilise pour la psychose le mot de perplexité. Et effectivement, peut-être que cette dimension de perplexité n'est pas aussi immédiatement tranchée que l'équivoque sexuel. Parce que l'exemple que vous donnez, c'est quand même un exemple d'équivoque sexuel. Et puisque vous en donnez un, je vais m'amuser à en donner un autre qui m'a été raconté par quelqu'un qui m'est proche. Pour qui c'était pas justement une équivoque. C'était plutôt quelque chose d'assez énigmatique. C'était une chanson. Petite fille, elle chantait en sortant de l'école avec ses camarades. Et comme texte de la chanson, il y avait les seins de jeune fille s'égayaient en chantant dans la prairie. Et personne ne voyait donc. Vous voyez ce qu'elle dit. Et pendant très longtemps, elle me laissait. en trouvant l'image bizarre, quand même, sans équivoque. Et justement, ça n'est qu'après. L'équivoque, c'est après. Et écoutez, mon Dieu, c'est bien sûr. C'est les saints, on parle de la corne. Patricia, du coup, ça m'amène à ma question à Patricia. Dans quelle mesure énigme et équivoque seraient synonymes? Qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'énigme et l'équivoque? Tu vois, des suspensions de la chaîne dans l'énigme. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est un peu plus acharne parce que ça porte sur la toute fin de ton exposé. Quand tu dis que le sujet à la fin trouve une réponse à sa propre énigme, c'est évidemment une réponse qui elle-même comporte sa part d'énigme.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Mais, non, alors... Bon.
Tu en as...
Oui, j'avais dit.
Vous voulez répondre non,
pas, beaucoup, pas répondre spécialement. C'était une... Je dirais pas que la perplexité est uniquement du côté de la psychose. Je veux dire, il peut y avoir un effet de perplexité aussi quand, avec un lapsus, pareil.
Oui, oui, non, mais là, hein? Je suis d'accord. Là où je voulais porter la différence, c'était justement sur le fait que dans la névrose, ça se branchait quand même sur la dimension d'interdit, du sexe, de la jouissance. Alors que la perplexité se résout dans la psychose souvent par la persécution de l'autre.
D'accord.
Là, il y a du...
D'accord.
Là encore, je vais répondre en essayant d'ordonner mes idées. Je crois que Lacan joue sur ce terme d'énigme qui revient, enfin qui était là au début, sur effectivement les formations de l'inconscient, mais il continue à l'employer en utilisant des termes qu'il utilisait avant. Alors, bien sûr, ça n'est pas du tout la même chose, mais là, dans ce chapitre, il affirme le savoir, c'est une énigme. Il dit pourquoi c'est une énigme? Parce que c'est articulable. Et donc, c'est pour donner... Il dit, attendez, bon, je vais dire ça.
Le savoir, c'est une énigme.
Oui,
ça
s'articule.
Quelle énigme c'est?
Non, 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 voilà. Mais je n'ai pas dit qu'il répondait. Non, 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 je ne dis pas que ça répond. Il dit, le savoir est une énigme et, pour l'être parlant, le savoir est ce qui s'articule. Donc, enfin, notre travail ici dans ce séminaire et le travail de Lacan, c'est d'essayer de saisir la nature de ce savoir. Et, bon... Dire qu'il s'articule, c'est dire qu'il est interprétable. C'est dire que, justement, il fait énigme et que ce n'est pas un savoir, comme vous disiez, pour la science. C'est un savoir qui est énigmatique et une énigme qu'on interroge. Ce qui se passe dans l'analyse, c'est que, bien sûr, moi, je pensais l'avoir assez bien mise en évidence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse définitive, il n'y a pas une... Mais il y a, à un moment donné, dans l'analyse... une suite d'associations qui s'arrêtent. Il y a quelque chose qui fait sens pour le sujet. Ça ne veut pas dire que c'est le sens absolu, que c'est un sens. Mais c'est un sens qui produit un effet. Qui produit un effet pour lui, qui va lui permettre d'associer autrement, enfin de plus, de sortir de ses ritournelles. Donc, voilà, enfin... La réponse à sa propre énigme, oui, parce que elle est une énigme, parce qu'il trouve un sens, mais le sens, il n'est pas un sens absolu, c'est le sens que lui va donner, mais ça a des effets, ça produit des effets dans sa vie, je veux dire, ça produit des effets dans l'analyse, parce que l'analyse, bon, va prendre une autre tournure, mais ça produit des effets dans sa vie. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu souligner, sur le fait que ce savoir... Eh bien, bien sûr, ce n'est pas le savoir de la science, ce n'est pas un savoir qui ne fait pas énigme. C'est un savoir qui est basé là-dessus, qui repose sur ça. Enfin, voilà, ce que j'ai essayé de reprendre avec quand même la manière dont Lacan en joue, parce qu'il reprend ces termes. Alors, la distinction entre énigme et équivoque... Ben oui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que une fois que ça s'écrit, enfin, c'est quelque chose qui est à lire, enfin, qui est à...
Côté du trou du sens.
Du trou du sens, voilà, oui.
Peut-être, peut-être qu'il y a deux niveaux de cette expression, l'énigme du savoir. Le savoir est une énigme. Bon. C'est une énigme dans le champ de la théorie analytique. Hein. Quelle est l'essence du savoir inconscient? Ce n'est pas pour chaque analyseur, c'est pour la théorie analytique. Et là, effectivement, la comparaison avec le savoir de la science s'impose, parce que le savoir de la science aussi s'articule, tout autant que ce qui est inconscient, sauf qu'il ne se jouit pas.
Hein. Donc, il ne se jouit pas, il ne s'interprète pas. Enfin,
il ne s'interprète pas, il se construit. Il se construit. Donc, ça avance, on peut dire, ça avance, ce flacon, il se construit. Bon. Et donc, effectivement, le savoir est une énigme, parce que c'est de l'articulation jouie, et c'est la particularité, ça, du savoir inconscient. Si on s'interroge sur le statut du savoir inconscient. Maintenant, l'analysant qui vient à l'analyse, il n'arrive pas avec une question sur le statut du savoir inconscient.
Mais sûrement. Hein?
Ça, c'est la question de Lacan arrivée à ce moment de son enseignement. Il arrive avec sa question de sujet. Avec son que suis-je, qu'est-ce que je suis pour avoir tel symptôme, etc. Donc, alors,
oui, mais il le dit aussi, il dit « je sais que c'est excessif, enfin bon, je me comporte comme ça. »
Oui, il est à lui-même une question et une énigme, il cherche la réponse.
Oui.
Donc c'est tout ce que vous avez développé, bien entendu. C'est pas contradictoire, c'est deux pans de l'expression, l'énigme, je crois l'énigme du savoir. Alors, effectivement, ça pose aussi la question de la certitude de fin d'analyse. On parle de la certitude du psychotique. Au fond, la question de la certitude de fin se pose, d'une position de certitude, et la position de certitude, c'est quand même une position où... les questions sont en suspens, il n'y a pas de questions. Alors, on peut dire d'un côté, on peut toujours poser des questions, on peut toujours trouver du sens, etc. Mais vient un moment où les questions s'arrêtent. Et sinon, il n'y a pas fin. Sinon, on continue indéfiniment. Et donc, si on voulait dire est-ce qu'il y a un affect de fin, je ne crois pas qu'il y a un affect de fin, mais si on voulait forcer la chose, en tout cas, les affects de fin, on peut dire satisfaction, comme a dit Lacan, mais ils sont sous l'index de la certitude. S'ils se sont des affects de fin, ils ne sont pas sous l'index de l'énigme. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse dire aussi que les réponses restent des énigmes.
Oui, tout à fait. Oui.
Il y a Carlos qui veut poser une question.
Oui, je voulais juste apporter une petite réflexion à propos de la question des marques sur l'articulation entre l'énigme et l'équivoque. Il y a une petite référence que Lacan fait à la question de l'énigme, je pense que c'est dans Littérateur. Il y a deux occurrences, en tout cas, dans Littérateur, je crois. Et c'est premièrement que l'énigme, c'est du côté féminin, c'est du côté de la femme que ça joue. Donc, on peut en déduire que l'énigme, c'est comme un indice de la dimension pas toute. Et de l'autre côté, que l'énigme est du côté de l'analyste. Donc, il y a ces deux occurrences-là, et à partir de là, on peut articuler qu'effectivement l'analyste en fait introduit la dimension de l'énigme, mais il n'y a pas qu'à l'équivoque pour le faire. Donc l'équivoque, ça peut produire un effet d'énigme, puisque ça vise, disons, la brisure du sens, mais il y a aussi le silence de l'analyste. disons, l'interprétation, elle peut être du côté de la production, de l'introduction de l'énigme, et pas seulement, Je ne dis pas que c'est de ce côté-là, mais en tout cas, c'est, disons, une dimension, disons, propre à l'analyste, disons, qui est du côté de l'analyste. Et en même temps, c'est pas comme un artifice, quoi. C'est pas une question de technique. C'est du côté de l'analyste, puisque dans son expérience, il a fait l'expérience de la limite du signifiant. Disons, je l'entends comme ça. Donc voilà, juste pour
comprendre. Oui, si j'entends bien ce que tu dis, si tu permets, tu inclus l'équivoque dans un champ plus large qui est celui de l'énigme. L'équivoque est une des modalités de l'énigme. Moi, je suis assez d'accord. Ce qui compte,
c'est pas... Oui, tout à fait, mais c'est une des modalités, disons, pour introduire, pour faire jouer la dimension de l'énigme, en fait, mais elle n'est pas la seule. Donc, oui, effectivement. Mais, donc, oui, effectivement, cette idée de dire que c'est la même chose, ça ne me convenait pas tellement, en fait. Disons, c'est beaucoup plus complexe, quoi, je pense, hein, cette question de l'énigme.
Vous voulez évoquer quelque
chose. L'équivoque aussi, c'est féminin. Hein. Il n'y a pas que l'énigme qui est féminin. C'est plutôt l'équivoque.
C'était juste une petite précision sur le symptôme. Parce que, tout de même, le symptôme comme formation de l'inconscient, c'est vraiment une formule du tout début.
Oui.
Et à laquelle il renonce très très vite.
Oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire... dire des bêtises, mais enfin, dès le séminaire 2, quasiment, c'est fini.
Même pas.
Le symptôme formation de l'inconscient, métaphore, il est dans l'instance de la lettre.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, on est bien loin du séminaire 2, on est en 55.
Oui.
Non.
L'instance de la lettre, 56-57.
56-57.
C'est plus tard.
Oui, oui. Le symptôme comme métaphore, va rester comme métaphore, mais il se détache très nettement des formations de l'inconscient.
Je pense que c'est même pas comme la même métaphore. Chose.
Oui, oui, tout à fait.
Mm. C'est pas la même chose.
Oui,
du
oui,
tout.
Oui, oui.
Il y a Sybille. Si quelqu'un peut lui passer le micro. Sybille.
C'est un souvenir. Je ne sais pas si c'est l'occurrence exacte, et je ne sais pas si vous l'aviez noté. Alors, je retrouverai, hein, c'est Jean-Paulé. Mais c'est dit que l'énigme, c'est la seule urgence à répondre. Et je trouve que ça décale quand même quelque chose du côté de l'énigme et la conséquence. C'est-à-dire une résolution d'énigme qui n'a pas de conséquence, est-ce que c'est réellement une énigme, enfin, mais il y a quand même cette dimension à la fois de l'urgence, et c'est, enfin, moi ça me fait penser à quelque chose sur des lacs aussi.
Oui. Enfin bon, l'énigme, elle est là. Après, la réponse, c'est du côté de l'acte, oui.
Alors, je vais ajouter une question. Qu'est-ce que tu penses, Patricia, de ce qui est dit Didier? J'étais assez d'accord que finalement, il y a une première réponse, la langue est une réponse, déjà. Donc, il y aurait une réponse à un énigme sur fond d'une réponse. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Je comprends pas bien ce que tu appelles la langue est une réponse.
Mais c'est ce qu'évoque Didier, je suis assez d'accord. C'est pas... une intrusion automatique, la langue. Donc, on peut supposer qu'il y a aussi une dimension de peut-être, on ne peut pas dire de choix du sujet, mais il y a certains éléments de la langue qui font intrusion de façon élective. Donc,
oui,
dans
d'accord.
Ce sens-là, elle fait réponse non, j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, sinon, on réduit la... Oui. Réponse à l'énigme, alors que c'est un énigme sur fond de la réponse.
Oui. En effet.
Une première réponse. Une première réponse.
C'est ça.
Je ne sais pas si on peut décomposer comme ça. C'est-à-dire, l'énigme, c'est une façon de par analogie, essayer de représenter quelque chose. Et ce savoir, on l'aborde, on le contourne pour montrer que bon, c'est justement quelque chose qui... Alors, effectivement, le surgissement de quelque chose auquel l'analysant, c'est lui qui va saisir ça ou pas. Donc, à partir du moment... Et c'est ça, si tu veux, que j'essaie de montrer, c'est que quand Lacan parle d'une réponse complètement conne, en fait, c'est l'analysant qui donne un sens ou qui n'en donne pas, ou qui saisit ou qui ne saisit pas quelque chose et qui en fait quelque chose après dans l'analyse. Donc, il n'y a pas une réponse absolue à l'énigme, bon, c'est ça. Il y a quelque chose qui va faire que le sens donné à ce que l'analysant disait jusqu'à un certain point, eh bien, il va y avoir un basculement, un décalage, quelque chose d'autre. Et pour l'analysant, ça va être quelque chose qui va l'amener à ne plus continuer à chercher un sens nouveau, etc. Ça produit quelque chose pour lui. Alors, à la fois, ça produit une espèce de satisfaction à ce qu'il a rencontré, enfin, alors que ce soit le surgissement de la langue ou un sens qui surgit dans le déchiffrage. Enfin, et il y a une espèce d'acceptation, de satisfaction par rapport à ça, et il y a aussi un effet qui est un effet dans l'analyse, mais qui est un effet aussi dans la vie. Donc oui, bien sûr que c'est la façon dont il le saisit et qu'il en fait quelque chose.
Je crois que c'est, vous l'avez dit de façon assez claire, il y a la dimension de la supposition et puis il y a quelque chose qui soutient.
Ouais.
Donc ce qui soutient, ça implique, bon, on le dit avec le terme soubassement, donc l'énigme s'appuie sur quelque chose.
Pas l'inquiétante étrangeté. Il y a là toute une série de termes qu'il serait intéressant peut-être de situer les uns par rapport aux autres. Je ne sais pas si toi tu y as réfléchi. Même dans l'usage de la langue, c'est bizarre, c'est quelqu'un de bizarre. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose de. Que la singularité énigmatique qui se pointe là-dedans, l'étrangeté c'est encore autre chose. Mais il y aura moyen de.
Oui, c'est-à-dire que l'énigme, c'est toujours quelque chose de bizarre. Voilà, c'est quelque chose qui paraît. Qu'on a besoin de creuser pour savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Qui surprend. Qui contient quelque chose. Qu'on... Alors, l'inquiétante étrangeté, oui.
C'est vrai, comme le disait Colette, l'énigme appelle à l'idée d'une réponse possible. La bizarrerie, non. La bizarrerie n'est pas question, c'est un constat. Différence.
Mais la bizarrerie, c'est une réponse déjà. Non ?
Une réponse difficile à énoncer, quand même.
Jugement.
Oui, c'est un jugement.
C'est bizarre.
Oui, c'est un jugement. Tout à fait. Affirmatif.
Donc, il y a quelqu'un qui est space. Je pense que c'est un bizarre.
Bon, pour plus ajouter quelque chose, Didier, on va s'arrêter là, merci. On se voit dans 15 jours. Bon, ça c'est bien. Non, c'était bien. Oui, vous avez vu, ça valait la peine, non? Oui. Non, mais ça valait la peine.